Radio Kapi. Oh, Kapi. Avec vous, Belinda Bosuma, à la présentation.
Le 17 mai, aujourd'hui, journée dédiée aux forces armées de la RDC. Et depuis 2019, une cérémonie officielle est prévue cet avant-midi à Kinshasa. En effet, le 17 mai 1997 marque la fin de la deuxième république du président Mobutu avec l'entrée à Kinshasa des rebelles de l'AFDL conduits par Laurent Désiré Kabila. Polémique autour des 10 millions de dollars destinés au projet de développement à Mwanda au Congo central pour la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption. Cette dotation destinée à fournir l'électricité à Mwanda n'a encore rien produit, mais la commission de gestion des fonds Mwanda explique que cette somme n'est pas uniquement destinée à électrifier ce territoire, mais aussi à bien d'autres projets de développement. Et puis, Ituri, les vents violents qui soufflent sur le lac Albert depuis avril ont déjà occasionné plusieurs dégâts, dont mort d'homme par noyade et perte des marchandises et de matériel de pêche. Pour en parler, nous recevons Robert Djalonga, coordonnateur du service de la protection civile. Mais avant de développer ces titres, sachez que à Kinshasa, 13 personnes sont mortes dans un accident de circulation hier sur le boulevard Lumumba au quartier Badara, dans la commune de Lancélé. C'est le bilan actualisé par le bourgmestre de cette commune après l'évacuation de tous les corps et une visite aux blessés. Franck Mbonzolameso parle de 5 survivants dans un état très préoccupant. En effet, un taxibus 207 a fini sa course sous un camion remorque. Le bourgmestre de Lancélé, Franck Mbonzolameso, explique la situation au téléphone de Babel Mpongo Massimango.
Il y a 13 corps que nous avons évacués au niveau de l'hôpital général. Il y a au moins 5 blessés qui sont au niveau de l'hôpital des cancers ici. Leur état n'est pas vraiment appréciable et j'ai demandé de les transférer rapidement à l'hôpital général. Nous continuons à recevoir des familles. Le 207 avait un problème de crémaillère qui a bloqué presque les volants. Le chauffeur des grands véhicules, lui aussi, il était discret au téléphone. Nous demandons aux autorités de nous aider. On ne peut pas accepter voir en pleine ville et très particulièrement dans ma commune de Lancélé. Tous les véhicules qui viennent de ce côté, c'est vraiment un état inacceptable.
Et il semblerait que chez vous, là-bas, on roule à grande vitesse.
C'est ça aussi que je puis quand même aussi à conscientiser les chauffeurs.
Le bourgmestre de Lancélé s'insurge aussi contre la circulation le jour des camions remorques. Madame, Messieurs, bonjour. Les militaires des forces armées de la RDC tombés sur le théâtre des combats et ceux encore sous le drapeau sont à l'honneur ce vendredi 17 mai devant toute la nation congolaise. D'après le service de communication et de l'information des FARDC, une cérémonie doit se tenir en cette matinée à Kinshasa au mémorial du soldat congolais. Elle sera ponctuée des diverses adresses des officiels. À noter que c'est depuis 2019 que la date du 17 mai est instituée en l'honneur de l'armée congolaise. Un rappel sur la commémoration de cette journée avec vous, Billy Van Lutumba.
En cette date, la nation commémore la révolution et les forces armées de la RDC selon un communiqué du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale. Révolution pourquoi ? C'est en rapport avec l'entrée dans la ville de Kinshasa depuis 1997 de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL. Une coalition rebelle qui avait fait chuter le maréchal Mobutu. 17 mai 2019, les FARDC sont commémorés. L'armée se retrouve ce jour-là place Rond-Point-Forest comme dénommé mémorial du soldat congolais. Sous une solennité exceptionnelle, les militaires rendent hommage à leurs compagnons des luttes. Général de brigade Sylvain Ekenge, alors commandant adjoint du service des communications et des FARDC, explique.
Ils ont combattu à Birmanie, ils ont combattu à l'Éthiopie, par les Sayo, des Gambela. Ce sont ces endroits-là. Ces noms marquent les grandes victoires de la force publique et ces victoires ont été immortalisées par les avenues.
Il s'agit aussi pour le législateur de reconnaître la bravoure de ceux qui sont encore sous les drapeaux, explique en 2019 le commandant du service des communications de l'armée générale Léon Kasonga.
Reconnaître les mérites d'une armée, c'est aussi la magnifier, parce qu'après tout, le militaire est le dernier ouvrier du peuple. Et donc, nous sommes les derniers ouvriers du peuple congolais, nous sommes à son service pour mourir à sa place, afin que la paix soit une réalité au quotidien.
Voilà qui sera une fois de plus commémoré en cette année 2024.
Une date mémorable donc dans l'histoire politique de la RDC, le 17 mai 1997 en effet, Laurent Désiré Kabila, à la tête des rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL, se rend maître de la capitale Kinshasa sans combat contre les forces armées zaïroises. Cet événement marque la chute du régime du président Mobutu après 32 ans de règne. Investi président de la République le 29 mai 1997 au stade des martyrs de la Pentecôte, Mzé Kabila, comme l'appelait affectueusement les Congolais, décrit dans son discours les méfaits du régime dictatorial instauré par le maréchal Mobutu. On écoute un extrait de ce discours proposé par Alain Rongmouching.
À ce jour où les forces démocratiques célèbrent leur victoire sur la dictature, l'avènement de l'AFDL au pouvoir d'État marque la fin d'une période d'irresponsabilité illimitée, de corruption généralisée, de détournements institutionnalisés, de violences et de violations flagrantes des droits de l'homme, de la régression économique, sociale et morale de la nation, de la démission de l'État et de la fin de la Deuxième République. La disparition d'un système de gouvernement fondé sur le clientélisme et sa légitimation extérieure marque aussi l'arrêt de la marche à reculons de ces individus rapaces et obsédés du pouvoir qui ont imprimé à la République démocratique du Congo qu'ils avaient du reste avec insolence rebaptisé Zaïre, c'est-à-dire le Tao.
Autre nouvelle, clôture hier de la campagne électorale à l'Assemblée nationale sur fond de protestation. À part Caroline Bemba, aucun candidat n'a fréquenté le Palais du Peuple hier. Tous les postes du bureau définitif, à l'exception de celui de rapporteur adjoint qui revient à l'opposition, ont des candidats uniques désignés par le président de l'Union sacrée. L'opposition parlementaire dénonce la prise en otage du processus par Christophe Mboso et le rejet des autres candidatures aux postes revenant à l'Union sacrée sans pouvoir rejeter celle de Constant Mutamba. Le président du groupe parlementaire de l'opposition demande donc la destitution du président du bureau d'âge. Christian Mwando est au micro de Michel Kifindangoy.
Le président du bureau provisoire, l'honorable Mboso, continue à dévoyer l'Assemblée nationale, parce que vous constaterez qu'après avoir bloqué l'Assemblée nationale pendant 4 mois, parce que lui-même voulait être président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il a provoqué des primaires, qu'il a échoué, et après avoir été battu à ces primaires, il s'est rabattu sur le poste de deuxième vice-président. L'honorable Mboso doit nous dire sur base de quels critères il a composé la commission qui devait recevoir et valider les candidatures. On n'est pas quand même dans une dictature où une personne, soit-elle le président du bureau provisoire, n'a pas le droit quand même de se lever un bon matin, de choisir ses amis, ses copains, en laissant la plénière de vote. Nous allons donc demander à tous nos députés de signer la pétition pour déchoir l'honorable Mboso.
Entre-temps, en justice, le Conseil d'État va appeler et instruire lundi prochain en procédure de référé liberté la requête du regroupement politique AMC qui soutient la candidature d'Antipas Moussa Nyamwisi au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le requérant demande au juge de référer d'adjoindre au bureau d'âge d'inscrire Moussa comme candidat à ce poste. Le requérant s'oppose au communiqué officiel du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, en qu'il n'a pas retenu son candidat sur la liste publiée. Par ailleurs, le même conseil a instruit hier la requête du regroupement politique AAUNC contre l'élection de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Il prononcera lundi prochain sa décision. Dans l'actualité aussi, la rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le cardinal Fridolin Ambongo hier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État en présence du chargé d'affaires de la nonciature apostolique, l'archevêque de Kinshasa parle d'un moment de clarification que le président de la République a accepté sa demande. Le compte-rendu de Billy Van Lutumba.
Fridolin Ambongo affirme, d'après la dépêche de la présidence, qu'il était nécessaire qu'il rencontre le chef de l'État pour faire la lumière sur tous les sujets qui avaient peut-être créé des malaises. À présent, soutient-il, tout devient clair. Il n'y a plus de problème, il y a eu plus de malentendus que des vrais problèmes. Après près de 2 heures d'échange, le prélat catholique déclare devant la presse que
« Quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. »
Concernant ces déclarations diversement commentées au sein de l'opinion, Ambongo affirme qu'il s'agit des malentendus.
Étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons.
Cette rencontre, signalons-le, est la première depuis la visite du pape François à Kinshasa en janvier 2023.
Je vous le disais en titre, où seraient passés les 10 millions de dollars américains destinés à financer les projets de développement dans le territoire de Mwanda au Congo central? En tout cas, cette question divise la société civile et la commission créée pour gérer ces fonds. Dénonçant ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion de ces fonds, la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption, l'ICOCO, demande au ministère des hydrocarbures de s'expliquer sur la gestion de ces fonds. Pour Ernest Mpararo, président de la LICOCO, cette dotation destinée à fournir l'électricité dans le territoire de Mwanda n'a encore produit aucun résultat depuis 2021. On écoute Ernest Mpararo.
Vous vous souvenez qu'en 2021, lors du renouvellement du permis d'exploitation des Terenko, cette dernière s'était engagée à soutenir quelques projets de développement dans la ville de Mwanda. C'est ainsi que la société Terenko va débloquer 10 millions de dollars pour effectivement électrifier la ville afin de lutter contre l'insécurité qui s'y passe actuellement. Après ce déblocage, une commission de gestion de fonds Mwanda sera mise en place. Alors que le bureau de suivi devrait être installé à Mwanda, le ministère des hydrocarbures va installer ce bureau ici à Kinshasa, où on ponctionne sur ce fonds, où on paye les salaires, on paye des frais de mission, on paye pas mal de dépenses qui sont inéligibles.
Donc depuis 2021, les fonds ont été mis à disposition du gouvernement, une commission est créée, même pas un appel d'offres lancé pour chercher le prestataire de services.
Mais il n'y a absolument rien, même pas d'appel d'offres. Même, on ne connaît même pas, au lieu d'ouvrir un bureau pour la gestion de ces fonds à Mwanda, on ouvre un bureau à Kinshasa.
Faux, rétorque la commission de gestion des fonds Mwanda. Les 10 millions de dollars n'étaient pas destinés à financer seulement l'électrification de Mwanda, mais bien de projets de développement général. C'est dans ce sens que des voitures neuves sont achetées et remises aux chefs des secteurs et la police pour leur mobilité, des tracteurs, kits agricoles et de pêche pour soutenir agriculteurs et pêcheurs de Mwanda. Et ces fonds ne viennent pas de la société Perenco qui exploite le pétrole à Mwanda. Ces explications sont de Jean-Paul Makengo, directeur de cabinet de la présidente de la commission de gestion des fonds Mwanda. Il explique ici la genèse et l'utilisation de cette dotation gouvernementale.
Donc cet argent vient d'une négociation avec Perenco, mais cet argent vient du trésor public. Ce n'est pas Perenco qui a fléché 10 millions pour Mwanda. Le ministre des Hydrocarbures, en respect de la résolution, a créé la commission de gestion des fonds Mwanda, la CGFM. Cette commission avait pour objet de mettre en place des projets de développement dans le territoire de Mwanda. Beaucoup font l'amalgame en disant que la commission de gestion a été créée pour l'électrification de Mwanda. Non.
Qu'est-ce que la commission a réalisé depuis août, comme vous l'avez dit, août 2023 jusqu'à ce jour?
La commission de gestion de fonds Mwanda a essayé d'avoir une gestion prudente en faisant des acquisitions. Ces acquisitions sont 4 véhicules pick-up pour le bureau du territoire et un pour chaque secteur, parce que le territoire de Mwanda est grand et il y a un problème de mobilité au niveau des secteurs. Comme ça, les chefs de secteur ont des véhicules qui leur permettent de mieux servir la population. Des moteurs hors bord ont été offerts au secteur aussi, parce que c'est un secteur aussi où il y a beaucoup d'eau.
Ce dossier est signé Daniel Tambinzoni. En plus bref, notez que la deuxième édition de Goma Mining Briefing s'est tenue hier à Goma sous le thème « La gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux et opportunités d'investissement dans l'Est de la RDC ». Il était question au cours de ce forum d'examiner l'impact des conflits et de l'instabilité sur le secteur minier et de discuter des stratégies pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région, mais aussi de découvrir les opportunités d'investissement dans ce secteur. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. Autre nouvelle, après l'arrêt de la cour d'appel de Kananga rendu le mardi dernier, le confirmant gouverneur élu du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu, rassure la population centre-kasaïenne. Face à la presse jeudi à Kinshasa, il promet de travailler pour le développement du Grand Kasaï, suivant la vision du président de la République. Son plan d'action sera présenté devant les députés provinciaux dès son investiture par ordonnance présidentielle. On écoute Joseph Moïse Kambulu, gouverneur élu du Kasaï central, au micro de Richard Junior Kamunga.
Je suis très content, satisfait de voir que la Cour a rendu l'arrêt définitif qui confirme notre élection comme gouverneur à la tête de la province du Kasaï central. Rendre gloire à l'Éternel notre Dieu, lui qui est le maître des circonstances et des temps, lui qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ensuite, rendre hommage et remerciement mérité au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a été élu pour le deuxième mandat et qui a voulu que ses collaborateurs à travers toutes les provinces soient dans la droite ligne de ce que lui a arrêté. Et donc, nous avons accepté de passer comme candidat à l'élection au gouvernorat du Kasaï central parce qu'effectivement, on s'était dit, nous devons prendre la direction de la province de manière à bien suivre les orientations du chef de l'État, être dans sa vision et faire décoller cette province. J'en profite pour remercier de vive voix toute la population de la province du Kasaï central et à travers cette population, les 34 députés provinciaux en votant pour nous, pour que nous soyons à la tête de la province.
Actualité internationale. La Cour internationale de justice examine la demande de l'Afrique du Sud pour mettre fin à l'opération militaire israélienne à Gaza. La Cour internationale de justice des Nations unies a entamé jeudi 2 jours d'audience sur une demande de l'Afrique du Sud visant à presser Israël de mettre un terme à son opération militaire dans la ville de Rafah au sud de Gaza où plus de la moitié de la population locale a cherché refuge. Il s'agit de la 4e demande de mesures d'urgence présentée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice depuis le lancement par le pays de procédures alléguant que l'action militaire d'Israël dans sa guerre avec le Hamas à Gaza constitue un génocide.
L'invité.
Nous sommes en Ituri. Les vents violents qui soufflent sur le lac Albert depuis avril ont déjà occasionné plusieurs dégâts, à savoir mort d'hommes par noyade, perte des marchandises et de matériel de pêche, la destruction des abris suivie des déplacements de ses occupants. Quelles sont les causes de ces catastrophes et comment réglementer les activités de pêche et de transport lacustre sans ou avec des moindres risques au lac Albert? Réponse avec Robert Djalunga, coordonnateur du service de la protection civile. Il est avec Martial Kizabiamungu.
Robert Djalunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment se présente ce dernier jour la situation du phénomène météorologique sur le lac Albert et ses côtes?
Effectivement, depuis le mois de mars, nous enregistrons de vents violents qui soufflent sur le lac et aussi sur les côtes ouest du lac Albert qui est occupé par la partie de la province de l'Ituri. Et ce sont des vents forts qui vont même au-delà de 10 voire plus de 15 km par heure. Et comme conséquence, il y a de fait que nous enregistrons, que ce soit sur le lac ou au bord du lac.
Alors, avez-vous des statistiques de cas de catastrophes déjà enregistrées à cette période?
Comme bilan provisoire, à ce jour, nous avons déjà au moins plus de 15 cas de mort suite au cas de naufrage des pirogues motorisées, qu'ils soient pour les transporteurs ou les voyageurs ou soit pour les pêcheurs qui pratiquent la pêche sur le lac Albert. Donc, avec des cas de perte de vies humaines, nous avons enregistré une quantité importante allant au-delà de 5 tonnes de marchandises importées de l'Ouganda. Il y a une quantité aussi importante de poissons qui ont été renversés dans les eaux du lac et des pirogues utilisées pour le transport ou soit le pêche qui ont été engloutis dans les eaux. À plus de cela, à ce qui concerne le secteur d'habitat, il y a une certaine de maisons se trouvant le long du lac Albert avec les vents qui soufflent, qui ont été complètement détruites, forçant à ces ménages victimes de se déplacer dans des zones ou de milliers estimés sécurisés. Et ce sont là déjà les éléments comme bilan que nous avons déjà enregistré depuis les débuts du mois d'avril ou fin du mois de mars.
Est-ce que cette situation ou bien ce tableau sombre de phénomènes météorologiques au niveau du lac Albert affecte le trafic lacustre ou les activités de pêche au niveau de ce lac?
Effectivement, ce sont des secteurs qui sont sensiblement menacés. Ceux qui s'engagent pour traverser le lac Albert de l'Ituri vers l'Ouganda comme une des voies de raccourci, les fait avec beaucoup de risques parce qu'à tout moment, le vent peut souffler et cela peut causer des cas de naufrage. C'est la même chose dans le secteur de la pêche où un bon nombre de pêcheurs, que ça soit du côté du territoire d'Irumu, Njugu, voire le territoire de Mahagi, un bon nombre de pêcheurs ont sensiblement réduit ou d'autres catégoriquement ont suspendu les activités de pêche sur les eaux du lac Albert, et cela a des impacts sur les secteurs alimentaires où nous enregistrons déjà une sorte de rareté de produits de pêche sur les différents marchés.
Robert Djalonga, comment réglementer les activités de pêche ou les transports lacustres sans un moindre risque au niveau du lac Albert?
Dans le cadre de prévention et réduction des risques des cas que nous avons énumérés ici, que ce soit les cas de naufrages, de malades, de destructions, il y a quelques éléments que nous avons formulés comme recommandation, c'est que d'abord pour ceux qui se décident ou s'engagent dans les transports ou dans les pêches, qu'ils prennent à compte ou bien en considération le port des gilets de sauvetage qui peuvent être un des éléments pouvant leur permettre de se sauver au cas où un incident leur arrive avec le vent sur les lacs.
Robert Djalonga, merci.
C'est à nous de vous remercier.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.